wurde Philosophie de la Nature, de Paul-Marie-Dominique Philippe, du 8 octobre 1999, à Saint-Germain.
C'est le premier cours de la philosophie de la nature. Un casier particulier. Il y a longtemps qu'on n'a pas enseigné la philosophie de la nature. Dans ce lieu, c'est la première fois. Et c'est important. Je sais qu'il y a un cours qui est donné pour une troisième année, je crois, sur la physique d'Aristote, la philosophie de la nature d'Aristote. Alors, un mot d'abord, point de vue historique. Qu'est-ce qui est important dans la philosophie de la nature? Ce n'est pas la physique, hein. La physique, science moderne, est tout à fait autre chose que la philosophie de la nature. Alors, évidemment, quand on lit Aristote et qu'on comprend sa perspective, qui n'est pas commode pour nous, c'est pour ça du reste qu'on n'avait pas enseigné la philosophie de la nature, parce que c'est sûrement le lieu où les discussions sont les plus fortes. Mais un petit peu comme l'éthique et la psychologie aujourd'hui. Ce sont des lieux très difficiles parce que deux manières de regarder se heurtent par rapport à la même réalité. Alors, il faut d'abord essayer de comprendre la perspective de la philosophie de nature d'Aristote. Et puis, on verra qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui dire sur cette philosophie de nature. Je ne répète pas Aristote, je l'ai lu et relu, hein. Et c'est très très bien, il faut le lire. Le livre de la philosophie de la nature, je crois que tout étudiant sérieux en philosophie doit l'avoir lu. Au moins celui-là. C'est dans la philosophie de la nature qu'Aristote a été le plus fécond. Il y en a des quantités, le seul là. La philosophie de la nature, point de départ. Alors, première considération, c'est le passage de la philosophie pratique à la philosophie spéculative. Et pour Aristote, je dis bien pour Aristote, la philosophie pratique sur la philosophie de l'art, la philosophie éthique, la philosophie politique, c'est quelque chose de premier. Alors que pour la scolastique, je le dis pour que vous ne tombiez pas dans la scolastique, alors que pour la scolastique, la philosophie de la nature est première. Alors, le point de vue spéculatif de la nature, de la philosophie du vivant, de la métaphysique. Puis ensuite, on applique ces principes à l'homme dans son activité. Et c'est là l'erreur de la scolastique, c'est de considérer que la philosophie pratique n'a pas de principe propre. On applique. Vous voyez, on peut faire ça pour la sagesse. La sagesse présuppose la philosophie qui saisit la philosophie pratique, la philosophie spéculative de la nature et du vivant. On peut faire ça. La sagesse, on se sert de la lumière que nous a donnée la contemplation de Dieu pour nous aider à mieux comprendre et aller jusqu'au bout de la connaissance philosophique. Mais je ne peux pas appliquer les principes propres de la nature, les principes propres du vivant, les principes propres de la métaphysique à l'homme. avoir une science pratique, une philosophie pratique de l'homme. Donc, il faut comprendre, c'est la première chose qu'il faut faire, que la philosophie qui repose sur l'expérience est premièrement pratique. Philosophie, c'est ce que nous essayons de faire ici, hein. Il faut le répéter plusieurs fois, surtout ceux qui sont habitués à la scolastique. Il n'y en a pas beaucoup quand même parmi vous, il y en a quand même quelques-uns. Et puis, ensuite, on dit, ah, vous êtes thomiste, ah bon, vous êtes dans la scolastique. Vraiment non. Nous cherchons la vérité. Saint Thomas a considéré qu'Aristote était le philosophe. Et saint Thomas n'a pas donné de philosophie pour elle-même. Saint Thomas a commenté Aristote en vue de sa théologie. C'est très bien, et c'est tout à fait normal au Moyen Âge. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Et on a raison. Pas du tout, parce que c'est aujourd'hui que je le fais. On a raison. On étudie le philosophe pour lui-même. Vous voyez, quand le Saint-Père dit que l'Église n'a pas de philosophie propre, c'est ça que le Saint-Père veut dire. Nous nous mettons à l'école d'Aristote, puis nous essayons de comprendre ce qu'il y a de juste dans Aristote et ce qu'il y a de périmé. Il y a des choses périmées dans Aristote, que je ne répéterai jamais au point de vue philosophique. Surtout quand il regarde le Decello. Le Decello est un livre magnifique, imaginativement étonnant. Mais, évidemment, quand vous regardez l'astronomie d'aujourd'hui et que vous regardez le Decello d'Aristote, vous dites « Aristote a rêvé ». Et c'est vrai qu'Aristote a rêvé, là. Là, il est très de son temps. Il considère que les corps célestes ont une matière différente que la matière de notre corps. C'est vrai, parce que comment voulez-vous que notre corps il puisse supporter le soleil? Comment voulez-vous que le soleil soit un vivant? C'est un vivant, le soleil, pour Aristote. Un vivant extraordinaire. Un vivant qui est du feu. Nous savons bien que le soleil, il n'y a pas la vie dans le soleil. Dans la lune, il n'y a pas la vie. On a cherché. Je ne suis pas un astronome, on n'a pas fait ce petit voyage pour la Lune. Ça m'aurait intéressé, mais TGV n'y va pas encore. Tu vois, il faut des préparatifs lointains, et ce n'est pas notre rôle. Mais ça doit être intéressant quand même, d'une expérience qui n'est pas sacré. Mais je dirais que c'est une sacrée expérience. Hein. Mais ce n'est pas sacré. Pour Aristote, c'est sacré. Les corps célestes. C'est sacré, c'est divin. Ils sont incorruptibles. Pas pour nous. Alors là, on modifie Aristote. Et pour Aristote, la physique s'étend au vivant, au corps céleste et au vivant. Pour nous, non. Il y a vraiment, avec le vivant, une nouvelle partie de la philosophie qui ne peut pas s'identifier à la physique. Mais là, on ne suit pas Aristote. On voit qu'il y a quelque chose de commun, le corps, mais je ne peux pas étudier le corps du vivant comme le monde physique. C'est pas la même chose. Alors, il faut avoir d'abord la connaissance d'Aristote avant de le corriger. C'est sûr. La connaissance du vivant et la connaissance de la philosophie, elle se fait progressivement. Alors on corrige Aristote. Aristote est un maître merveilleux, mais il ne faut surtout pas le copier. Papa Levi. J'ai vu le passage des théologiens de la foi du Christ qui fait que je ne peux pas suivre Aristote matériellement. Je peux m'inspirer d'Aristote. Je peux découvrir beaucoup de choses en Aristote. La découverte des principes propres. Ça, c'est fameux, vous ne les trouvez qu'en Aristote. Alors, première chose, constatation dans la philosophie de la nature, c'est que nous passons d'une philosophie pratique à une philosophie spéculative, théorique, c'est-à-dire contemplative. Je recherche la vérité pour la vérité, pour elle-même. Et la philosophie de la nature est spéculative. Donc, c'est une philosophie nouvelle, un caractère particulier qui est spéculative, comme la philosophie première, comme la philosophie du vivant. Et je vois que cette philosophie cherche les principes propres du devenir. Le corps physique est un être mobile. Un être mobile. Vous voyez, là, il y a quelque chose de commun avec la physique moderne. Et pour Aristote, le monde physique, le monde de la nature, est un monde physique, un monde mobile, qui est toujours en mouvement. Le repos n'existe que chez le vivant. L'être physique ne se repose jamais. Parce qu'il n'a pas en lui de conscience du moi. La terre n'a pas conscience qu'elle est terre. Elle est terre pour le vivant. Pour elle, elle est la source de tout le devenir. Mais il y a quand même quelque chose de très important. Parce qu'une des grandes victoires de la philosophie grecque, ça a été de distinguer le devenir et l'être. Parménide. Parménide, c'est la grande découverte de Parménide. Et c'est pour ça que Parménide, il faut tous avoir lu Parménide. Hein. C'est un poème merveilleux. On a essayé de le traduire le mieux possible, parce que c'est tellement beau, Parménide. Or, Parménide découvre pour la première fois l'être. Distinct du devenir. Alors Parménide découvre l'être avec, dans un poème. Et la philosophie première, la métaphysique a commencé par un poème. Heureux poème. Un poème sur l'être, sur ce qu'il est, en tant qu'il est. Il a découvert ça. Mais il l'a découvert d'une manière qui n'est pas suffisamment précise. Il a opposé l'être et le devenir. C'est une première distinction. Et cette distinction implique une séparation. Parce que la distinction n'est pas assez poussée. Et c'est pour ça que c'est si intéressant parmi nous. Parce que c'est une ébauche philosophique. Alors, il y a le domaine de l'être qui est le domaine de tout ce qui change, de tout ce qui est mobile. Il y a le domaine de l'être, qui est le domaine de la vérité, le domaine du devenir, qui est le domaine de tout ce qui change, de tout ce qui devient. Alors, tout ce qui devient, tout ce qui change, c'est notre monde physique. Et le domaine de la vérité, c'est notre monde spirituel. Il y a en nous quelque chose du spirituel, qui est au-delà du devenir. Il y a ce monde du vivant, spirituel, la vérité. Or, cette distinction du devenir et de l'être est une distinction sur laquelle les philosophes grecs, les premiers philosophes pré-socratiques, se sont heurtés très fortement. Et cette distinction, vous la retrouvez chez Platon. Entre Parménide et Platon, il y a une grande parenté. C'est un pré-Platon, Parménide. Parce que la distinction est une séparation. Exactement comme pour Platon. Pour Platon, il y a deux domaines. Il y a le domaine du devenir, qui est le monde physique. Et puis il y a le domaine spirituel, divin, qui est le domaine des choses qui sont au-delà de la matière, au-delà du physique. Le premier qui est arrivé à comprendre que ce qui devient existe. Notre univers, il devient, il est le domaine du changement. Et les tremblements de terre le montrent bien. Il n'y a pas de tremblement de terre au niveau de l'être. Non. Parce que l'être est au-delà du devenir. Mais l'être est dans le devenir. Et on le découvre à partir du devenir. Donc, on fait cette distinction très importante entre ce que l'intelligence analyse et la réalité. Dans la réalité, il y a des séparations. Et l'intelligence est capable de distinguer sans séparer. Et ça, c'est la découverte d'Aristote. Tout ce que je touche, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, c'est le monde physique qui m'enveloppe entièrement. Le monde physique m'enveloppe entièrement. Je suis prisonnier du monde physique. Et c'est tout ce que je touche. Mais dans ce monde physique, j'ai une intelligence qui s'éveille. Et mon intelligence est capable de regarder ce qui est mu en disant « ceci existe ». Notre monde physique, il existe. Mais il existe de telle manière qu'il est toujours en mouvement. Et ça, c'est une découverte extraordinaire. Et c'est la découverte à partir de là d'une philosophie. Et ça, c'est la première découverte d'Aristote. De comprendre que la distinction que je saisis par l'intelligence la saisit d'un principe. Le principe est quelque chose de réel. C'est quelque chose de réel. Le principe existe dans la réalité. Mais la réalité, ce n'est pas le principe. Je distingue l'étant et ce qui est. Je distingue l'être mobile et ce qui est. C'est une distinction capitale, hein, qui, avant Aristote, n'existe pas. Alors, tout ce qui est avant Aristote prépare cette distinction. Et c'est intéressant pour nous de voir comment ça se prépare. Et un de ceux qui ont montré ça merveilleusement, c'est le poème de Parménide. Et c'est Hésiode. C'est avant celui qui a découvert le devenir avant. Et la distinction avec Parménide, qui, lui, ne regarde que le monde physique et ne distingue pas encore le monde physique, il reste dans la séparation. On a donc, avant Aristote, deux philosophies nettes, une distinction, une philosophie de l'esprit et une philosophie de la matière. C'est Platon. Philosophie du corps, il dit philosophie de la matière et une philosophie de l'esprit. Platon n'arrive pas à comprendre que l'intelligence peut saisir quelque chose dans la réalité matérielle. Et ce quelque chose que l'intelligence saisit est au-delà de la matière, tout en existant dans la matière. Donc, distinction entre distinction philosophique et séparation. C'est comme cela que se situe la philosophie de la nature. La philosophie de la nature, c'est comprendre l'intelligibilité de la réalité mobile, de la réalité qui est mue. La réalité qui est mue a son intelligibilité. Et le philosophe va essayer de comprendre cette intelligibilité de la réalité mue. Et à partir de là, il pourra distinguer le devenir et l'être. Parce que si toute distinction est une séparation, si toute distinction est une séparation, la seule chose que vous expérimentez, c'est un être mobile, un être en changement. Tout ce que vous expérimentez est mobile, est en changement, implique une réalité sensible. Donc, la réalité qui est l'être distinct du devenir, vous ne pouvez la saisir qu'à partir de l'intelligence, et que dans l'intelligence. Et donc, vous la saisissez comme quelque chose qui n'est pas mu, qui est au-delà de la matière, l'intelligence qui pense. Mais c'est la porte ouverte à la phénoménologie. C'est dans ce sens-là que si on n'est pas technicien, on sera phénoménologue. À cause de ça. Parce que toute distinction est une séparation. Je ne peux saisir l'être qu'à partir de mon intelligence. Puisque seule l'intelligence est spirituelle. Je ne peux saisir le spirituel qu'à partir de l'intelligence. Et donc je sépare le spirituel du matériel. Je sépare le spirituel du mobile. Aristote, au contraire, par la philosophie de la nature, comprend qu'il peut y avoir une philosophie de la réalité mobile. La réalité que je touche, que je vois, que je palpe, c'est toujours une réalité mobile. Une réalité qui est mue, qui change. Toutes les réalités que j'expérimente changent. Et moi-même, je change dans mon corps. Je suis en devenir par mon corps. Je suis en devenir en croissance et je suis en devenir en décroissance. C'est propre de l'être vivant qui est physique. Il y a les deux. Tant qu'on est jeune, on grandit. On ne sait pas jusqu'à quelle taille. On grandit. À devenir, qui est une croissance. Puis je suis dans la zone du haut plateau. Et à un moment donné, je décrois. Mon intelligence ne connaît pas cela. Mon intelligence atteint l'être. Et l'être est au-dessus du venir. L'être, il est. L'être, il est au-dessus du temps. Et donc, l'être qui est en train de croître existe. En lui, je peux saisir l'être. L'être qui est au plateau, je peux le saisir, il est. Et l'être qui décroît, il est. Alors vous voyez, la connaissance de l'être à travers le devenir et dans le devenir, et non pas la connaissance de l'être séparée du devenir. Si la connaissance de l'être ne peut être connu que séparé du devenir, je ne peux connaître objectivement l'être qu'à partir de la pensée. Il faut comprendre l'erreur radicale de Descartes, il faut comprendre l'erreur radicale de Platon, il faut comprendre l'erreur radicale de toute phénoménologie. C'est que de fait, toute distinction est une séparation. Donc la première chose que vous devez essayer de comprendre pour entrer dans la philosophie, c'est de comprendre que c'est l'intelligence qui distingue. Et que l'acte d'intelligence distingue, sont séparés. Vous distinguez en vous, le domaine physique, le corps, et vous distinguez en vous un domaine intérieur. Dès que je distingue l'intériorité, mon intériorité, je dis à celui qui me voit, oui, très bien, tu me vois, c'est très vrai, mais mon intériorité, tu la vois pas. Tu sais pas ce que je pense, tant que je l'ai pas dit. Mon intériorité. Vous faites ça constamment, hein? Bien, cette distinction de l'intériorité et de l'extériorité, qui est capitale, qui est la grande distinction d'un phénoménologue, n'en fait pas d'autre, peut me permettre d'avancer et de comprendre que quand je distingue quelque chose au point de vue philosophique, je distingue sans séparer. Donc le livre de la philosophie de la nature, c'est l'entrée dans la philosophie théorétique, spéculative, la recherche de la vérité pour la vérité. Il se fait à partir de l'expérience. D'une expérience directe. Non pas d'une expérience qui se sert d'instrument. Vous voyez, c'est là le gros problème. La physique moderne n'existe que grâce aux instruments. Elle n'existe pas autrement. Or, est-ce que l'instrument saisit l'être? Qu'est-ce que l'instrument peut saisir? C'est là la grosse question. La différence entre l'organe direct et puis l'organe fatigué qui se sert d'instrument. Je me sers de lunettes. Hein. Pourquoi? Parce que l'organe de l'œil est fatigué. C'est ça. Ceux qui n'ont pas de lunettes, bien heureux ceux qui n'ont pas de lunettes, parce que c'est l'organe qui est encore. Et lorsqu'il y a une myopie, petit à petit, l'œil se fatigue et il ne voit plus. Il est paresseux. Alors, quand je mets des lunettes, est-ce que c'est la même vision exactement que lorsque je n'en mets pas? Et cela pour tout, c'est comme ça. Alors, il faut bien se dire, hein, et ça c'est intéressant et c'est important, qu'est-ce que fait l'instrument qui grossit la réalité. Est-ce qu'on grossit la réalité telle qu'elle est, ou est-ce qu'on grossit la réalité partiellement? Donc, je dis tout de suite, hein, quand je parle de l'expérimentation scientifique et quand je parle de l'expérience philosophique, c'est pas la même chose. L'expérimentation physique, scientifique, elle est à base d'instruments. Et je dois mettre quels sont les instruments dont je me suis servi pour savoir si ce que j'ai saisi peut se répéter. Parce que vous voyez, un béotien suit un savant qui lui, grâce à ses instruments, a saisi telle chose. Le béotien ne sait pas servir d'instrument. Il dit, je vais regarder, qu'est-ce que tu as vu? On voit pas ça du tout. C'est pas ça du tout que je vois. Moi, je regarde. Alors, tu mets que tu as vu à la vision, ça, que tu as expérimenté, ça. Mais tu n'expérimentes pas ça du tout. Je suis obligé de dire, attention, je me suis servi d'un instrument. Et grâce à cet instrument, j'ai vu ça. Oui, mais tu as vu ça, est-ce que c'est réel? Est-ce que je peux partir d'un jugement d'existence à partir d'un instrument? Est-ce que le toucher peut servir d'instrument. Est-ce que le toucher peut servir d'instrument? Est-ce qu'il y a des instruments du toucher? J'ai la peau un peu usée. Je vais trouver quelqu'un, donnez-moi un instrument pour me toucher. Alors, il vous donne des gants. Mais venez des gants. Parce que ça évite de vous brûler. Mais est-ce que ça vous donne un toucher plus fin que le toucher? Ah, pas du tout. C'est très grossier, les gants. Bah, deux mains qui gantées toutes les deux. Et c'est un... Pas du tout, c'est ton gant que j'ai saisi et tu m'as saisi mon gant. Et tu n'as rien saisi d'autre. Tu n'as pas saisi du tout ma peau. Hein? Quand c'est un gant qui vous donne une caresse, oh, enlève ton gant, regarde. Vous voyez, le toucher résiste à l'instrument. Oh, pourquoi? Parce que c'est le toucher qui touche l'être. Oh. Je n'avais jamais pensé ça. C'est pourtant très très important. Toute la science moderne est à base d'instruments. Toujours. Alors qu'est-ce que je saisis de vrai? Et qu'est-ce que je saisis de pas de vrai? Est-ce que le savant fait la distinction? Non. Il se sert des mathématiques. Ah, c'est pour ça qu'il sert des mathématiques et pas de la métaphysique. Parce que le métaphysicien dira tout le temps, est-ce que tu as touché? Oui, les soucoupes volantes. À un moment donné, on en a parlé beaucoup. Je regardais en philosophe. Est-ce qu'elle touchait? Non, jamais. C'est la vue, c'est l'ouïe. Alors c'est peut-être faux. C'est peut-être un rêve. C'est volante. Est-ce que c'est vraiment une réalité qui est venue me rendre visite? Je sais pas. Oui. Alors, il faut réfléchir là-dessus dès le point de départ pour la physique. Dès le point de départ. La physique d'Aristote se fait sans instrument. Je regarde la réalité telle qu'elle est. Et j'essaie de comprendre. Le toucher joue beaucoup hein, pour la physique. Énormément. La physique, la philosophie de la nature, énormément. Alors que pour la physique, le toucher, est-ce que ça sert? Comme disait quelqu'un, il n'y a que la vue. Parce que grâce aux instruments, c'est la vue. Et les instruments montrent qu'il y a un petit signe qui montre que c'est allumé. J'imagine que ce monde ne s'est pas allumé. C'est la vue. On fait la physique des manchots. Toucher un, je ne salisse pas. Alors, le jugement d'existence est mis entre parenthèses. Je n'en occupe pas. Je ne peux pas réaliser ça. Il faut penser à ça. Mais tant que je n'ai pas serré la main à quelqu'un, et c'est beaucoup serrer la main, je découvre des quantités de choses qu'on me serre la main. Pas des choses vieilles. La main d'un petit enfant, la main d'un vieillard, la main d'un sportif. C'est pas la même chose. Oui, le toucher. La philosophie de la nature d'Aristote, elle implique le toucher. Et même elle part du toucher. Le toucher reste humain. Dès qu'un instrument, il y a une médiation. Ah, une médiation. L'instrument, c'est la loi de la médiation. La médiation spirituelle, très bien, mais la médiation corporelle. Il y a un intermédiaire, quoi. Il y a un intermédiaire qui est là. Et cet intermédiaire, il est très gênant, parce qu'il n'y a plus le contact immédiat. Et quand il n'y a plus le contact immédiat, y a-t-il encore le toucher? De la main? De la peau? Il faut réfléchir à ça. Hein. Je voulais commencer. On commencera la fois prochaine. Mais ce qui est important dans la philosophie de la nature, c'est qu'on passe d'une philosophie pratique à une philosophie spéculative. Et pour nous, C'est très important parce qu'on part sur une philosophie qui est terriblement ébranlée, qui a été rejetée au nom de la science. Est-ce qu'on doit rejeter la philosophie de la nature au nom de la science ? Oui, grave question.